heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre et heureux de retrouver Sidi, que je remercie, dans la cabine technique.
Merci. Bonjour.
Merci d'être là. Eh bien, l'actualité est évidemment abondante. Alors, je ne vais pas commencer par la Palestine, mais je vous en parlerai nécessairement. Je vais essayer de parler d'autres sujets qui ont un peu disparu, c'est-à-dire qu'on a un effet d'écrasement des médias par ce qui paraît et ce qui est vrai, la situation et le contexte historique le plus important du moment. Et en même temps, il se passe d'autres choses à d'autres endroits. Alors, je vais commencer par un endroit dont on parlait beaucoup et qui est presque disparu des écrans, qui est l'Ukraine. On vous parle presque plus de l'Ukraine. Alors, c'est pourtant intéressant de regarder ce qui s'y passe, parce qu'en fait, dans cette espèce de silence, de cette demi-teinte, de cette obscurité qui s'est installée sur les plaines ukrainiennes, on a l'impression que la situation est en train d'évoluer très très rapidement. Le témoignage que je veux en retenir est une couverture du Time Magazine. Alors, Time Magazine, c'est aux États-Unis, donc l'hebdomadaire le plus connu, le plus célèbre, qui circule dans les couvertures et dont les articles circulent dans le monde entier. Ça serait, toutes choses égales par ailleurs, l'équivalent français du Point, par exemple. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à une échelle beaucoup plus grande et beaucoup plus mondiale, internationale. Et Time Magazine donne une photo de couverture à Zelensky et sous un titre qui est assez intéressant puisqu'il semble dire, il dit même « Je suis le dernier à y croire ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'il se rend compte effectivement que lui croit encore, parce qu'il a été mis là pour ça, j'allais dire, à une victoire possible contre la Russie et qu'il est de plus en plus isolé dans cette position-là. Alors ça peut être une appréciation politique ou un sentiment. En fait, ce qu'on sait quand on regarde, parce qu'on cherche, on trouve encore des informations sur la situation militaire en Ukraine et politique en Ukraine, on sait qu'effectivement, les combats tournent de plus en plus en défaveur de ce qui reste d'armée ukrainienne. Ce qui reste d'armée ukrainienne est fabriqué maintenant de bouts et de morceaux. Il faut savoir que la conscription est montée jusqu'à 43 ans. Ça veut dire qu'on peut, à un père de famille de 43 ans, demander à prendre l'uniforme et aller dans les plaines combattre l'armée russe. Il y va d'autant moins volontiers qu'il sait très bien que ça se passe mal, qu'il y a des centaines de milliers de morts dans l'armée russe et que donc il risque, le jour où il met l'uniforme, il est en train d'endosser son uniforme de mort. Et on en est arrivé au point où il y a des gens qui partent au combat, donc ces nouvelles recrues in extremis qu'on est allé chercher un peu partout et en les forçant un peu, des gens qui n'arriveront même pas sur le champ de bataille parce qu'effectivement, les tirs de l'artillerie russe arrêteront les convois qui amènent ces combattants sur le champ de bataille et ils ne verront même pas le champ de bataille. Ça, on en est là. Et donc, un état de démoralisation de ce qui reste d'armée ukrainienne extrêmement puissant. Une perspective, des perspectives de gains de terrain quasiment nulles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la guerre est d'ores et déjà perdue, et c'est ce que un peu veut dire la couverture de Time Magazine, c'est-à-dire Zelensky dit « moi j'y crois encore ». Il y croit encore parce que de toute façon, il a été mis à ce poste-là pour y croire et pour faire croire à tout le monde qu'il y croyait, que tout le monde devait continuer à y croire. Mais il est de plus en plus isolé. Et pour que ce soit la couverture de Time Magazine qui lance cette information, ça veut dire que la direction, ce qu'on appelle l'establishment états-unien, est d'accord pour dire qu'effectivement, on en est arrivé là. C'est-à-dire que pour les États-Unis, la bataille d'Ukraine, elle est quasiment terminée. Et il y a encore une espèce de forcené, d'obstiné de la dernière heure qui s'appelle Volodymyr Zelensky et qui, lui, y croit encore. Encore pour un certain temps, et pour combien de temps, on ne sait pas trop. Alors ça n'empêche qu'on lui envoie encore des milliards qui probablement n'arriveront pas au bon endroit, c'est-à-dire s'évaporeront dans des circuits de la corruption ukrainienne qui est à des niveaux rarement atteints sur le reste de la planète. En fait, on sent bien une espèce de fin de partie. Et c'est pour ça que pour la grande presse, y compris notre presse qui était pro-ukrainienne, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à dire. La fin de partie, tout le monde la sent, les militaires, les services de renseignement, les politiques, et on verra de moins en moins Macron quelconque venir dire « Vas-y Zelensky !» Parce qu'en fait, plus personne n'a la capacité de tenir ce genre de discours qui manifestement ne fonctionne plus. Il n'y a pas plus à dire sur l'Ukraine que ça, c'est-à-dire que il peut y avoir encore quelques dizaines de milliers de morts, il peut y avoir encore des horreurs qui se passeront. De toute façon, on est vers cette issue militaire. Après, il faudra passer à une issue politique. Qu'est-ce qu'on fait de ce territoire? Qu'est-ce qu'on fait de ce pauvre pays qui s'appelle l'Ukraine, qui a été envoyé au combat par les États-Unis et par l'OTAN, et qui va sortir de ce combat dans lequel on l'a impliqué. Alors, il était complaisant, il était même d'accord au début, mais il ne se rendait pas compte de l'état dans lequel il achèverait cette partie militaire, cette guerre-là. Un état catastrophique, des millions de personnes parties, tous ceux qui ont pu fuir ont fui, un niveau de corruption bien au-delà de la moyenne mondiale, un pays qui n'a plus de sens, qui ne croit plus en rien, à part peut-être une petite équipe qui est là, qui encore continue. Alors, en même temps qu'elle se remplit les poches, car on n'a pas d'illusion sur la capacité de Zelensky à continuer à se remplir les poches, c'est peut-être même ce qui le motive pour continuer encore un peu, avec peut-être en préparation, on peut l'imaginer, parce que le personnage n'est pas reluisant, quelque part un avion prêt dans un coin caché de la banlieue de Kiev qui, au dernier moment, dans les 5 dernières minutes, l'emmènera vers un exil doré qui est déjà préparé sous différents cieux, méditerranéens, africains, etc. Mais c'est une espèce, une tragédie pour les Ukrainiens, c'est une comédie triste pour Zelensky et pour toute l'équipe qui l'entoure. Et c'est aussi une réflexion que nous devons avoir sur les puissances, donc États-Unis et puis tous ceux qui ont suivi derrière, qui ont applaudi la France, la Grande-Bretagne et tout, pour avoir détruit un pays avec la volonté de le faire détruire un autre. L'autre n'est pas détruit, manifestement. Il a fait face, il continue à fonctionner, il continue à avoir une capacité militaire, il continue à fabriquer des armes, il a même amélioré, disons, son système de défense. Et donc, le bilan était très, très triste, mais on va mettre un certain temps à le tirer. Je le tire devant vous parce qu'il s'impose tellement à la lecture calme de tout ce qu'on peut lire, qu'il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible, si ce n'est sur le niveau de misère de la population ukrainienne. Alors je dis de la population, car il faut bien se rendre compte, à la différence de ce qui se passe dans d'autres endroits quand il y a des guerres comme ça, c'est-à-dire que le territoire ukrainien qui reste encore sous le gouvernement de Kiev et de Zelensky et de ses ministres, le territoire de l'Ukraine, à part dans les lieux militaires, dans les zones où il y a des dépôts de munitions, des usines d'armement ou des stocks de matières premières pour fabriquer ces armements, le territoire ukrainien n'est pas abîmé par la guerre. Kiev est dans un état trompeur, à la limite, vous pouvez aller à Kiev aujourd'hui, avoir l'impression d'une ville riante, en bon état et tout. Il n'y a pas eu de destruction de Kiev, de bombardement de Kiev. Il n'y a eu que des tirs sur des objectifs militaires, dans la périphérie. Et donc on a un pays qui peut encore être présentable, donner l'illusion d'un pays qui a de l'avenir, et qui en fait n'a plus aucune ressource, n'a plus aucun moyen, et est au bord de la faillite. Parce qu'au fond, à défaut, s'il n'y avait pas les centaines de milliards qui sont déversés par les États-Unis en permanence et sans arrêt, et par les autres puissances occidentales, il y a longtemps que tout ça ne tiendrait plus debout. Voilà, on a une espèce d'illusion encore d'un pays qui s'appelle l'Ukraine, qui n'existe plus, qui est mort dans un combat qui n'était pas nécessairement le sien, ou surtout pas celui de toute la population ukrainienne, loin s'en faut, mais il était le jouet d'une petite équipe qui avait été embauchée, sélectionnée pour faire un travail qui était de l'intérêt des États-Unis, et c'est tout ce qui était important pour les États-Unis, faire le travail qu'on lui avait assigné, peu importe le prix qu'il lui en coûta. Le prix va être considérable et il restera de là un pays dont peut-être s'appellera encore l'Ukraine. On ne sait pas encore la taille qu'il aura, on ne sait pas qui trop pourra le gouverner, s'il y a encore des candidats à prendre en charge ce fiasco. C'est ça qui est masqué. Alors on ne peut plus en parler, parce que quoi dire ? Après nous avoir dit tellement de choses extraordinaires sur cette campagne ukrainienne, sur ceci, cela, enfin, tout ce qui allait se passer, après qu'on ait vu Zelensky dans toutes les assemblées du monde, pérorant sur tous les écrans, à Rome, à Paris, à Bruxelles, à Washington et tout, il ne reste rien. Le soufflet s'est effondré, la marionnette s'écroule, la baudruche se crève, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qu'un pays dévasté, une population qui ne sait pas quel est son avenir. C'est très triste à dire et, j'allais dire, on n'a même pas à se réjouir. Il n'y a pas à se réjouir de ça. Il n'y a pas à se réjouir du fait qu'on a envoyé des centaines de milliers de personnes à l'abattoir pour des objectifs qui étaient des objectifs d'argent, de domination du monde, de cours de trafic du pétrole, du trafic des minerais, du trafic et du cours et de la fabrique des armements. C'est tout. Il n'y a que les vrais bénéficiaires, ils sont là. Les populations, que ce soit la population des États-Unis qui n'a pas profité de cette guerre-là, même si elle travaille dans les usines d'armement, mais par ailleurs, dans toutes les autres usines, la situation n'est pas bien brillante aux États-Unis, qui sont en crise économique. Dans tous les autres pays qui ont mis de l'argent, des moyens sur la table, il n'y a aucune raison d'être satisfait, puisque ici et là, on est privé de gaz russe pas cher, on a des usines qui ferment, on est en situation donc, de déclin économique, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la France, d'une certaine façon. Quel bilan catastrophique, de cette opération. Donc commencer pour dire ça y est, on va gagner, on va écraser la Russie et tout, et puis c'est pas du tout ce qui se passe. Voilà, je salue l'ami Habib qui arrive, qui a eu des difficultés sans doute. Bonjour Habib. Voilà, je suis content qu'il me rejoigne. J'étais en train, en t'attendant, de faire un bilan triste de la guerre d'Ukraine pour dire que la guerre d'Ukraine, elle n'est pas finie, mais elle a plus de sens, y compris pour ceux qui l'ont lancée, pour ceux qui l'ont promue, pour ceux qui l'ont financée. Et je signalais donc que Zelensky se permet de dire qu'il est le dernier à y croire. C'est-à-dire que sa mission qui lui était confiée, il se rend compte qu'elle ne réussira pas. Et puis, il ne sait pas ce qu'il va lui arriver lui-même. Je pense, et je répète mon hypothèse, c'est qu'il va fuir au dernier moment. Fortune faite. Se cacher dans un paradis quelconque, fiscal, au soleil, avec les centaines de millions de dollars qu'il aura volés dans les aides étrangères. Triste fin. Triste fin. Voilà, ceci dit, je voulais vous parler d'un voyage dont on parlera moins, mais qui est quand même très très révélateur. Il s'agit du voyage de Sa Majesté Charles III au Kenya. Alors, c'est le premier voyage du nouveau roi d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, dans une ancienne colonie britannique. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Le Kenya est une des colonies britanniques qui est restée la plus proche de la couronne, qui a été, malgré alors qu'il a été proche et qu'il est toujours, parce qu'il faut savoir que la répression coloniale britannique a été particulièrement féroce au Kenya. Je fais allusion à la révolte des Mao-Mao qui a été sauvagement réprimée. Mais en même temps, quand on regarde aujourd'hui la situation du Kenya, on a affaire à un des rares pays d'Afrique qui est encore totalement aligné sur l'Occident. Et il faut savoir que le président, il y a eu trois pays qui ont approuvé la position israélienne par rapport à Gaza, dont le Kenya. L'autre étant la République démocratique du Congo. Et le troisième, je ne me souviens plus, je crois que c'est la Somalie. Bon. Mais donc le Kenya, alors le Kenya a été peu touché, enfin, il s'est remis de la décolonisation. Il est resté dans le giron de la maison mère Grande-Bretagne. Et en fait, il faut savoir, et c'est pour ça que Charles III s'y rend, que c'est un endroit qui est resté très fidèle pour toute une série de raisons. La première raison, c'est que la couronne britannique et le souverain lui-même, le monarque Charles III, il faut savoir, Charles III, ce n'est pas simplement un monsieur que vous voyez à Versailles boire le champagne. Non, c'est un monsieur extrêmement riche qui a des biens propres à sa famille. Ce n'est pas les biens de la couronne britannique. Il est propriétaire. C'est un grand capitaliste international. Et beaucoup de ces propriétés, de ces trésors, de ces terrains sont au Kenya. Et donc il va visiter en tant que patron du Kenya, en tant que gros propriétaire foncier du Kenya, entre propriétaire de plantation de thé, propriétaire de plantation de café, propriétaire de tout ce qui est possible. J'imagine même, je ne suis pas allé voir, mais c'est très probable, qu'il est organisateur, à travers une de ses filiales, de grands safaris pour chasser la girafe. Voilà ce que c'est que Charles III. Ce n'est pas seulement un monsieur qu'on montre au couronnement avec des diamants, etc. Non, c'est un gros exploiteur du continent africain. Et l'endroit où il sévit le plus, c'est le Kenya. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut savoir en plus, alors ça c'est la partie « je m'enrichis » du personnage Charles III, qui n'a jamais arrêté de faire ça, parce qu'il a commencé ce métier-là, j'investis, j'achète, je prends des possessions, etc., bien avant d'avoir la couronne d'Angleterre sur la tête. Il a commencé il y a très très longtemps, impatient de prendre peut-être le pouvoir, mais sa maman le laissait faire. Et donc il s'est beaucoup enrichi, il est très copain avec les responsables de l'opération Davos, Schwab et tout, il fait partie donc des gens qui organisent le capitalisme au niveau mondial, il met de l'argent, il investit, etc. Et le Kenya est dans un endroit où il a le mieux, le plus placé d'argent. Ça c'est l'aspect « je m'enrichis ». Donc le souverain sans scrupule qui se remplit les poches comme il a fait depuis des dizaines d'années alors qu'il n'était pas encore sur le trône d'Angleterre. Et puis il y a l'autre aspect militaire. Il faut savoir qu'effectivement le Kenya a obtenu son indépendance en 1962 à la suite donc de la répression extrêmement sauvage de la révolte des Mau Mau, mais que dans les accords d'indépendance il a été prévu que la Grande-Bretagne gardait une grande base militaire sur le sol kényan qu'elle a toujours. Alors cette base militaire, il n'y a pas des dizaines de milliers d'hommes. J'ai regardé, il y a 500 personnes qui la tiennent. Bon. En permanence. Mais ça veut dire qu'à longueur d'année, il se déroule sur le sol kényan des manœuvres de l'armée britannique. C'est-à-dire qu'il y a cette base qui est là, qui est entretenue, qui fonctionne et tout, avec des terrains d'aviation, des stocks de munitions et tout. Et sans arrêt, enfin, plusieurs fois dans l'année, des dizaines de milliers d'hommes de l'armée britannique viennent s'entraîner sur le continent africain pour faire la guerre. Alors pour faire la guerre à qui ? Ben peut-être aux Somaliens, peut-être aux Éthiopiens à l'occasion, tout autour. On a donc la base avancée de l'impérialisme britannique qui est au Kenya. C'est ça le sens de la visite de Charles III. Je suis chez moi, mon armée fait ce qu'il veut, et en plus je m'enrichis grassement sur le dos de ce pays. Pays qui, alors, il s'est transformé comme tous les pays d'Afrique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui presque 55 millions d'habitants au Kenya, ce qui n'est pas un petit pays. C'est un pays qui est, en gros, de la taille de la France, qui a un relief compliqué avec des très hauts sommets. Alors, vous savez, tous ces paysages, le Kilimandjaro, le mont Kenya, etc., les safaris, ça, c'est l'aspect touristique. Alors, ça a un succès fou, ça amène beaucoup d'argent, d'argent de la part de gens qui peuvent se payer des safaris, donc il faut déjà être très, très riche. Et puis, il y a l'exploitation agricole qui est très intense et dans laquelle je pense que Charles III a toute sa place. Voilà ce que c'est que le Kenya contemporain. Alors, c'est intéressant aussi d'y réfléchir et de se rendre bien compte de ça parce qu'on a tendance à simplifier la situation géopolitique de l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire, on a regardé, nous, beaucoup le Sahel. On voit donc les pays ex-francophones, les anciennes colonies qui prennent de la distance par rapport à la France. On nous parle beaucoup de l'armée russe qui intervient ici et là et tout. On parle beaucoup, même si on en parle moins, mais des investissements chinois qui sont importants. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas affaire à un ensemble qui bouge d'un seul sens et d'une seule façon. On a affaire à 54 ensembles qui chacun ont des destins particuliers et dans chaque cas, il y a un coefficient particulier, un peu plus d'intérêt britannique, un peu plus d'intérêt américain, un peu plus d'intérêt russe, un peu plus d'intérêt chinois et tout. Tous les cas sont différents les uns des autres. Alors on a des tendances générales qui sont celles de l'émancipation des colonies africaines, mais ce serait une erreur simplificatrice de dire tout se passe de la même façon sur tout le continent africain. À chaque fois, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le cas kényan, parce qu'on en parle peu, et en fait il s'agit tout à fait d'un cas, je dis, un des cinq, sur les 54, c'est un des trois pays qui obéissent au doigt et à l'œil à Londres. Il n'y en a pas beaucoup, mais il en reste. Et c'est ça qu'il faut savoir, parce qu'on a affaire, alors, on n'a pas affaire à un basculement brutal du continent africain qui changerait de camp. Le continent africain, il n'a pas à changer de camp, il a à définir son camp à lui. Mais on a affaire, quartier par quartier, petit morceau d'Afrique par petit morceau d'Afrique, des évolutions qui sont lentes, qui tiennent compte d'un passé lointain, qui tiennent compte d'intérêts déjà bien établis, etc. Et chaque fois, il faut avoir ce qu'on appelle une focale un peu plus serrée pour bien comprendre ce qui se passe dans chacun des pays. Chaque pays est particulier, même s'il y a des mouvements d'ensemble. Le mouvement d'ensemble, on le connaît, on le salue et on en est content. C'est que les Africains veulent s'émanciper et décider eux-mêmes de leur avenir. Mais ce n'est pas toujours facile partout. Je veux, brièvement, je peux parler du Sénégal, ça fera plaisir à Sidi, où les difficultés pour qu'une opposition démocratique correcte puisse s'exprimer au Sénégal sont considérables. On mène le parti de Macky Sall, le président sortant, pas encore sorti, hélas, mène une vie épouvantable à ses opposants et à son principal opposant. Il mène une vie épouvantable. On en parle assez peu, mais il faut savoir que c'est un combat difficile qui va durer encore plusieurs mois puisque les élections présidentielles sont prévues pour le mois de février 2024 et qu'on ne sait pas encore si l'opposition pourra se présenter. C'est même pas savoir si elle peut gagner. On ne sait même pas s'ils auront le droit de se présenter tellement il y a de trafic sur les bulletins de vote, le bulletin d'adhésion, les listes électorales, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand on parle de l'Afrique, on a une satisfaction de dire qu'il y a de plus en plus de pays africains qui s'expriment pour devenir maîtres de leur destin. Mais chaque cas, quand on le regarde de plus près, est un cas difficile, est un cas douloureux, est un cas où il y a de la prison, c'est un cas où il y a des tirs, c'est un cas où il y a de l'armement partout et où il y a des intérêts très très importants en présence. Intérêts miniers, intérêts bancaires, tout est là. Donc l'émancipation de l'Afrique, elle est en cours. Mais ce 1,4 milliard d'habitants aura des conditions d'accès à la prospérité et à l'indépendance beaucoup plus difficiles que le 1,4 milliard de Chinois, parce que là, il n'y avait qu'un seul gouvernement. Et une fois qu'il avait gagné, il pouvait avancer. Là, on n'en est pas du tout là. C'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ce cas du Kenya. Alors, il y a au Kenya même, et comme heureusement, il y a des gens qui font des études, il y a des universitaires, et je me suis appuyé pour vous faire cette présentation du Kenya sur le travail d'une dame, une universitaire kenyane, qui a bien mis le doigt, qui a pu publier un article, elle n'est pas en prison encore, qui a publié un article sur ce que je vous décris, pour dire, ne nous réjouissons pas trop, nous, Kenyans et Kenyanes, de la venue du monarque. Il vient pour s'enrichir, il vient pour contrôler le business, il vient pour regarder si c'est filiale gagne beaucoup d'argent et il vient pour s'assurer que son armée peut continuer à s'entraîner sur le sol africain sans être embarrassée. C'est tout ça qu'il y a derrière et qui se dit, c'est important de le savoir. Ensuite, je voulais dire quelques mots, puisque je suis sur l'Afrique. Il s'est tenu au début de ce mois, et j'en ai pas encore parlé avant, les assemblées générales de deux institutions, qui sont les institutions dites de Bretton Woods, donc le Fonds monétaire international et le groupe de la Banque mondiale. Alors ces deux institutions, donc, qui sont créées en 1944 et qui permettent aux États-Unis de dicter la façon dont le monde sera financé par eux, avec le dollar comme monnaie de référence, pour la période la plus longue possible. Ce qui s'est effectivement passé. Alors il commence à y avoir, et ça a fonctionné, et je pense que c'est bon que ce soit tenu à Marrakech, parce que c'est l'endroit du monde où ces deux institutions, le Fonds monétaire et le groupe de la Banque mondiale, ont fait le plus de dégâts. C'est-à-dire que, souvenez-vous, l'ajustement structurel, un gouvernement en difficulté à qui on a prêté de l'argent, qui a de la peine à rembourser, on lui fournit encore de l'argent, ça c'est le Fonds monétaire, et puis on a sorti ça de conditions, il faut privatiser ceci, privatiser cela, etc. etc. Vous connaissez tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'à Marrakech, à cette double assemblée générale de ces deux institutions de Bretton Woods, donc qui sont les deux institutions donc qui établissent la domination du dollar sur la totalité de l'économie mondiale à l'époque. Alors il faut voir que ça établit la domination du dollar sur des pays qui, on est en 1944, ne sont pas indépendants. mais qui, de toute façon, le jour où ils vont le devenir, hein, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire en 1960, seront de toute façon... Donc, j'ai déjà, du premier jour de leur indépendance, ils ont le dollar qui leur est sauté dessus. Hein, et ils sont donc enfermés dans le système dollar. Parce que la France fait partie du système, et qu'elle n'a pas eu le choix d'ailleurs de faire autrement. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'évolution qui se fait, et qui est très intéressante, ça fait partie des mouvements de fond, c'est que à Marrakech, donc à l'occasion de ces deux assemblées générales, un certain nombre de pays, en particulier des pays africains, ont commencé par dire qu'il faudrait revoir la composition du capital de ces deux institutions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire tout simplement que le Fonds monétaire et le groupe de la Banque mondiale sont des banques, c'est-à-dire avec des actionnaires, et que dans une banque, les actionnaires décident de ce que va faire la banque, et dans la décision, celui qui a la majorité des actions, c'est lui qui prend la décision. C'est tout, c'est aussi bête que ça. Hein, c'est vrai dans toutes les bourses financières du monde, c'est vrai pour le CAC 40, c'est vrai pour le Dow Jones, etc. Bon, toutes les boîtes, c'est comme ça, c'est-à-dire que celui qui a la majorité du capital au conseil d'administration donne les directives. Donc il faut bien savoir que tout a été fait, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est connu, pour qu'au capital du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, les États-Unis et leurs amis, je veux parler des puissances de l'Europe occidentale en particulier, soient de toute façon majoritaires. Et donc aucune décision ne peut leur échapper. C'est-à-dire que si les États-Unis disent à un moment donné « on va étrangler tel pays parce qu'on ne veut pas aider tel ou tel gouvernement qui est en train d'avoir une politique progressiste dont on ne veut pas », eh bien le Fonds monétaire ne peut que suivre puisque de toute façon l'actionnariat majoritaire a décidé que c'était comme ça. Et donc ce pays-là peut mourir de faim, il n'aura pas de prêt du Fonds monétaire international. Bon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir discussion là-dessus en disant « mais c'est pas juste, finalement, c'est ceux qui ont l'argent qui décident pour les autres, c'est une banque comme les autres, le Fonds monétaire international ». Ce qui est nouveau, c'est qu'il existe maintenant un élément de comparaison qui s'appelle les BRICS. Ouais. Et qu'est-ce que disent les BRICS ? Les BRICS disent « nous, c'est pas ça, on n'est pas lié par un traité, on n'est pas une banque. Il y a une banque de développement des BRICS, elle existe, mais en tant que BRICS, on est un pays et on discute des relations qu'on peut avoir avec un autre pays pauvre ou en cours de développement, quelle aide on peut lui apporter, sous quelle forme et tout, mais on n'est pas là pour l'étrangler. On est là pour dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut vous apporter. » Je vous donne un exemple, enfin je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail. Il faut savoir qu'ont lieu en ce moment des négociations approfondie, pointue, entre l'Égypte et la Russie au sujet de l'adhésion de l'Égypte aux BRICS au 1er janvier 2024. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se met calmement devant une table, les Russes disent « voilà ce qu'on veut faire pour vous », les Égyptiens disent « voilà ce qu'on aimerait faire ensemble, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, imaginons un nouveau barrage, des pipelines, enfin tout ce qu'on peut, et puis comment on finance, qui paye quoi, où est-ce qu'on trouve l'argent, et on se met d'accord. Mais on ne cherche pas à vous mettre un revolver sur la tempe en disant « c'est comme ça, c'est à tel prix et c'est tout, c'est-à-dire on discute tranquillement et on va arriver donc au 1er janvier 2024 avec une Égypte et une Russie qui auront organiser leur rapport sur une base d'une discussion entre égaux. Il se passera la même chose d'ailleurs entre la Chine et l'Égypte. On discutera de même type de projet. Bon. C'est ça le rapport complètement différent. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'à l'Assemblée générale de Marrakech, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, des voix se sont élevées en disant « mais c'est pas juste parce que c'est les actionnaires qui décident, et ils peuvent décider de nous étrangler », c'est qu'en fait, chacun maintenant a dans l'esprit qu'il y a peut-être une autre façon de travailler avec les BRICS. Et donc il y a une possibilité d'un monde nouveau qui s'ouvre et qui nous sort, alors on ne rappelle plus, 44, qui nous sort de 80 ans de dictature du dollar. Alors ça ne se fait pas en 24 heures, mais c'est en cours et c'est dans les têtes de tous les dirigeants des pays qui veulent que leur pays se développe et qui veulent pouvoir nourrir leur population. Je rappelle que l'Égypte en 1944, il devait y avoir bravement 30 millions d'habitants, il y en a 110 aujourd'hui. Hein. Et donc c'est à une échelle complètement différente. Et c'est ça qu'on discute pour se mettre d'accord sur les règles de fonctionnement au sein des BRICS. C'est pour ça que je reviens là-dessus, parce que c'est intéressant de comprendre que les BRICS, ce n'est pas un traité tout ficelé, tout prêt, avec 25 articles, des codicils différents qu'on a assignés, et c'est ça ou rien, on a à mettre au point des relations entre deux égaux qui ont décidé de se donner des coups de main et de travailler ensemble. C'est pas du tout pareil. Et dans chaque cas, ce sera différent. Parce que l'Égypte pourra dire, moi ça m'intéresse pas d'avoir tel ou tel équipement soviétique, russe, pardon, mais par contre, l'Égypte pourra dire, ah par contre, vous savez faire de très bonnes centrales nucléaires, j'en veux une ou deux. Et à ce moment-là, on discute du délai, du prix et tout, du système de financement, de là où on trouve l'uranium, etc. Et on discute concret, avec des projets concrets. C'était sur ces aspects-là que je voulais ouvrir la séance d'aujourd'hui. Et puis, bien entendu, j'allais parler de la situation en Palestine.
Ah ouais.
Pourquoi parler de la situation en Palestine ? Parce qu'effectivement, vous le savez et vous le constatez, il s'agit bien du sujet qui occupe la totalité des médias en permanence. Alors, à force, on est maintenant au bout de 3 semaines dans un système un peu répétitif où on n'a que de l'horreur, que des meurtres, que des enfants qui meurent, des femmes qui meurent, des vieillards qui meurent, des bombardiers qui tuent la population civile. Ça on a compris. Et on peut... Enfin, on a toujours ce début de sentiment de quelque chose d'insupportable.
C'est vrai.
Humainement insupportable. Et en même temps, politiquement, ça ne se règle pas en 24 heures. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la période qui vient de s'écouler ? Il y a une première évolution qui est importante et qui a suscité des réactions, c'est que, enfin, le secrétaire général de l'ONU, le portugais Guterres, au milieu de la semaine dernière, a écrit un texte dans lequel il dit « On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé avant le 7 octobre sur le territoire de la Palestine.
Ouais. »
Le mot qu'il a utilisé, ce n'était pas le vide avant. Et il disait simplement, ben effectivement, ce qui se passe maintenant n'est jamais que la suite d'une aventure très triste, commencée en 1948, qui s'est poursuivie avec deux guerres, celle de 67 puis celle de 73, qui fait que de toute façon, les Palestiniens ne sont pas chez eux et n'ont pas d'État aujourd'hui. Bon. Ce qui explique toute une série de leurs réactions de Palestiniens. Le fait qu'il ait osé ça, et à mot, c'était très discret, hein, on ne peut pas dire qu'il y avait le vide, il a simplement dit « avant le 7 octobre, il s'est passé des choses, hein, regardez bien, et il est mieux placé que tout le monde pour le savoir ». Ce simple fait d'avoir dit ça l'a rendu insupportable au gouvernement israélien qui demande tout simplement sa démission. C'est-à-dire, M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies, n'a pas le droit de dire qu'il y a une histoire de la Palestine et d'Israël. Il n'y a pas d'histoire, puisque pour la presse, alors on en a souffert ici, c'est un peu plus calme maintenant, mais on en a souffert ici dans les premiers jours suivant le 7 octobre. Il y avait juste un événement qui était les événements du 7 octobre. Le Hamas est rentré, est sorti de Gaza. C'était tout. Il n'y avait pas d'histoire, il n'y avait pas eu l'indépendance, il n'y avait pas eu 48, il n'y avait pas eu ça. Il ne s'était rien passé. Et M. Guterres dit, bah, écoutez, regardez, moi je suis quand même un peu au courant, il y a eu des événements avant, il y a eu des événements douloureux. Et ça, c'est insupportable au gouvernement israélien. Alors ça, c'est très notable, et ça a eu tellement d'écho que les membres de l'ONU, donc les 194 États membres de l'ONU, ont décidé, ce qui est très exceptionnel, de réouvrir l'Assemblée générale. Vous savez que l'Assemblée générale annuelle, ça tient tous les ans au début, fin septembre, début octobre. Et donc, ils ont dit, le sujet est suffisamment grave pour que nous réouvrions la session, une session spéciale consacrée à la Palestine. Cette session est réouverte. Et alors, c'est intéressant à voir parce qu'on fait se prononcer. L'Assemblée générale dit, le Conseil de sécurité est bloqué puisque les États-Unis ne veulent absolument rien faire et protègent Israël et sa campagne violente et meurtrière sur Gaza. Et donc, on va dire, c'est l'Assemblée générale qui prend le pouvoir. Alors, c'est bien parce que enfin, c'est un bon sentiment, c'est-à-dire que l'Assemblée générale devrait avoir le pouvoir. Ce n'est pas le cas dans le cadre du traité de l'ONU tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La décision concrète de prendre des décisions concrètes se prend au Conseil de sécurité. Quand le Conseil de sécurité est paralysé, l'ONU fait des phrases, l'ONU bavarde, l'ONU fait du texte. Alors c'est assez frustrant et c'est assez douloureux. Mais en même temps, quand on met devant cette Assemblée générale de l'ONU une motion, une résolution, qui est un projet qui était celui de la Jordanie, je crois, qui dit « il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu parce que le massacre, ça suffit », Bon, ça part d'un bon sentiment, et c'est un sentiment humain très très largement répandu sur toute la planète. Il y a quand même 120 États qui votent là-dessus. 120 États qui disent, évidemment, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Évidemment, il faut arrêter le carnage. Alors ça n'arrête rien. C'est très très douloureux, parce qu'on sait qu'il y a 120 États, dont des grands États, avec des milliards d'habitants, qui disent ça. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça veut dire que le mode de gestion de l'ONU est à revoir. Mais les règles qui font que chaque pays qui existe, qu'il soit grand ou petit, a le droit à la parole, sont importantes. Sur ces, il y a eu ces 120 voix donc, pour la résolution jordanienne. Il y a eu une quinzaine de votes contre, un peu, et puis une quarantaine d'abstentions. Alors là aussi, on a des jeux assez étonnants, parce que la France, qui par ailleurs, quand on entend la parole d'Emmanuel Macron, fait partie des pousses au crime, c'est-à-dire encourager Israël à tuer encore plus à Gaza, là, à l'ONU, ils sont soutenus, ils ont voté pour le cessez-le-feu. Alors ils se font plaisir, ça fait joli. On est tout à fait dans le en même temps macronien. À l'Assemblée générale, où ça n'a aucun effet, je dis que je suis pour le cessez-le-feu. Et en pratique, quand je vais à Tel Aviv et que je suis reçu par M. Netanyahou, je dis « tu peux y aller ». Tu peux y aller. Donc on est dans l'hypocrisie macronienne, on la connaît, elle est triste à pleurer, mais on la connaît, il faudra bien un jour que nous en sortions. Alors ça, c'était le premier aspect, cet aspect, l'ONU. L'ONU, donc, dont on voit les fragilités, et en même temps, quand on dit Israël se permet de dire qu'il faut que M. Guterres démissionne parce qu'il a dit qu'il y avait un passé à la question palestinienne, on est confondu.
Le délégué d'Israël avait déchiré aussi l'émotion.
Oui, oui, alors on est confondu, c'est-à-dire ils osent le dire, comme si effectivement ça fait... Alors pourquoi ils osent le dire? Parce que ça fait en fait 50 ans que quand ils font ça, ça fait peur à tout le monde. Or là, maintenant, Guterres, pour une fois, il n'a pas eu peur. C'est la première fois, parce qu'après, on en a eu des secrétaires généraux qui se laissaient marcher sur les pieds, Kofi Annan, j'en passe, etc. Enfin, de l'avis des connaisseurs du dossier palestinien, le seul secrétaire général qui a été propre dans les débuts de la question, l'affaire palestinienne, je vais appeler ça, c'est Houtant. Houtant, qui était le premier ou le second secrétaire général de l'ONU, qui était un Birman et qui, lui, avait essayé de trouver un équilibre entre les deux parties. Depuis, effectivement, dans la mesure où les États-Unis faisaient basculer toujours dans le même sens, favorable à Israël et à sa colonisation, les secrétaires généraux de l'ONU continuaient le travail sagement. Et il est probable... Tant pis si M. Guterres est fâché et s'il est mis à la porte pour son prochain mandat, que les États-Unis ont un pouvoir encore déterminant dans le choix du secrétaire général.
Il y avait un Égyptien aussi qui était...
Oui.
Comment il s'appelle? Je ne me rappelle plus son nom.
Il y a eu Louis qui a été pas mal aussi.
Voilà. Donc, ils l'ont obligé à partir.
Voilà, tout à fait. Voilà pour ce qui est de l'ONU. Alors c'est intéressant parce qu'il y a donc sur ce dossier de la Palestine, on voit quand même des frottements politiques qui font que les questions se posent un peu dans des termes différents. Même si pour l'instant, au niveau du résultat de terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, puisqu'en fait, au niveau des résultats du terrain, on a effectivement une agression militaire extrêmement grave qui n'est pas encore allée, alors c'est là qu'il faut s'arrêter, qui n'est pas encore allée jusqu'à l'invasion de Gaza par l'armée israélienne.
Ah, jusqu'à présent.
On n'y est pas. Alors, ce n'est pas l'envie qui leur manque, mais je pense qu'ils sont maintenant en capacité de mesurer la difficulté de l'opération. C'est-à-dire la difficulté politique. Alors admettons que ça ne leur fasse rien, que le monde entier les montre du doigt en disant qu'ils sont génocidaires. Peut-être. Et en même temps, peut-être pas. Parce qu'on a affaire, et ça c'est un autre aspect des choses, à une espèce de coupure de la société israélienne. C'est intéressant, je vais revenir à cet aspect-là. Donc militairement, Israël n'a pas commis l'acte suprême horrible. C'est-à-dire rentrer dans la bande de Gaza... et tirer sur tout ce qui bouge. En gros, c'était ça l'idée. Hein, oui. Puisqu'il disait, ou vous refluez vers le sud, ou bien de toute façon, on avance et survivra qui peut. Hein. Bon, en fait, ça ne s'est pas fait, parce que je pense qu'au niveau militaire, ce n'est pas si simple. D'une part, parce que le Hamas est sous la terre. d'une part. D'autre part, parce que plus vous faites effondrer de bâtiments en les bombardant, plus vous mettez une couche de gravat sur le sol, l'intervention militaire devient délicate. Vous circulez dans des ruines, c'est pas si facile, et puis ça augmente à la limite la protection des souterrains. Là, vous avez des mètres cubes de déblai de gravat au-dessus, vous pouvez pas intervenir. C'est beaucoup plus difficile. Ah, je t'écoute, voilà. Et donc, ça, c'est l'aspect militaire.
Boutros-Ghali.
Boutros-Ghali, c'est ça, oui. Ouais. Ça, c'est l'aspect militaire. Donc, effectivement, Israël n'est pas très sûr de son fait. Alors, ce n'est pas parce qu'on nous fait croire que c'est parce que les États-Unis leur disent « soyez sages et tout ». Les États-Unis ne leur disent rien du tout. Ils font ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Je n'ai pas d'illusion là-dessus. Mais c'est qu'ils ont la compréhension de la réalité du terrain et qu'ils savent que sur le terrain, ça serait très, très compliqué. Et qu'ils y laisseraient beaucoup, beaucoup de plumes. Et donc ça, ils ne sont pas nécessairement prêts à laisser beaucoup, beaucoup de plumes. Regardez, il suffit qu'il y ait un soldat israélien tué pour qu'on en fasse une affaire mondiale. Alors là, si c'est des milliers ou plusieurs dizaines de milliers de soldats israéliens avec le matériel qui va vers, qui perdaient la vie dans cette opération-là, alors en face, il y aurait, pas l'ombre d'un doute, pour 10 000 soldats israéliens morts, il y aurait 150 ou 200 000 palestiniens morts. Ça, j'ai aucune illusion là-dessus. Toutes les statistiques qu'on a pu voir le montrent. Regardez, enfin, l'échelle c'est 1 pour 50, 1 pour 70, 1 pour 100, etc. Hein, tout ce qu'on a pour toutes les agressions, les accrochages qui ont eu lieu, on est dans les mêmes proportions. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc militairement, l'affaire n'est pas si simple. Bon. Donc peu importe que les États-Unis disent « soyez prudents, machin, chose et tout », peut-être les États-Unis sont partagés. Bon, à voir. Le deuxième aspect des choses, c'est que le pays d'Israël lui-même est partagé.
Oui, c'est important.
C'est ça qui est plus important, c'est-à-dire que le gouvernement de Netanyahou, qui était, rappelons-nous, soumis à des mobilisations et à des protestations fortes sur ses projets de réforme de la Constitution, n'est pas populaire. Il a été mal élu, c'est une coalition de différents partis, les partis les plus à droite, en plus du Likoud de Netanyahou. Et donc, en fait, la population israélienne ne suit pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe deux choses très, très contradictoires. D'une part, non pas à Gaza, mais en Cisjordanie, les colons déchaînés, c'est-à-dire l'extrême droite israélienne, sont en train de prendre tout ce qu'il est encore possible de prendre comme terre palestinienne. Et il y a aujourd'hui des morts. Hein. Alors on dit c'est à Gaza, c'est la masse. Non, c'est pas du tout. Il y a aujourd'hui des colons qui chassent, voire qui tuent des Palestiniens. Alors ils les appellent des Bédouins, ça fait exotique et ça fait désert. Hein. On prend encore, les colons israéliens continuent à prendre de la terre palestinienne. En se disant, et là c'est une espèce de fuite en avant, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais, il y a la guerre, le gouvernement est un peu débordé, il nous laisse faire, on est armé, hein, et c'est admis qu'on est armé, c'est tout à fait légal, et donc si on peut encore voler quelques hectares ici, arracher quelques oliviers là, prendre une source encore à tel endroit, on continue ce qu'on a toujours fait, et on a l'impunité garantie. Alors, garantie, voire. Alors ça, c'est l'aspect, les colons, donc l'extrême droite colonisatrice qui continue à fonctionner. Et en même temps, il y a, et certainement dans les villes, dans les universités, etc., toute une opinion israélienne qui dit, mais où va-t-on? Dans quelle aventure sommes-nous allés? Et quelle est l'image que le pays donne en faisant ce qu'il fait? Et allons-nous continuer à massacrer encore des centaines de milliers de Palestiniens comme nous avons commencé à le faire? Et donc là, on a une réaction qui devient très très intéressante et qui se complète par un autre aspect sur lequel je vais m'arrêter, c'est sur les rapports avec le judaïsme, avec la religion. C'est-à-dire que, vous le savez, le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement qui se veut un gouvernement religieux.
Hein, c'est-à-dire l'extrême droite.
L'extrême droite et une extrême droite religieuse. Ouais. Hein, ce pays est le pays des juifs, de confession juive.
Bon.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a chez les gens qui ont la religion juive, Il y en a beaucoup en Israël, mais il y en a dans d'autres pays. Il y en a dans ces gens qui ont la religion juive et qui la pratiquent et qui la respectent, les textes, la Torah, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais c'est jamais ça qu'on a voulu faire et ça ne fait pas partie de la religion juive, cette c'est pratique ». Ça, c'est très très important de le mesurer. C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui des rabbins qui disent « mais qu'est-ce que cette politique qui déshonore le judaïsme ?» Qui nous adore, nous en tant que juifs, on a une croyance qui n'est pas une croyance de tueur, d'assassin, et on a des gens qui disent c'est à cause de cette croyance que nous détruisons la Palestine. C'est pas vrai, nous on n'est pas partie prenante. Je vais vous citer une phrase de l'Organisation internationale des juifs contre le sionisme. Ça existe. Et bien, cette Organisation internationale des juifs contre le sionisme, je cite, c'est entre guillemets, prie Dieu pour que la Palestine retrouve sa liberté. C'est clair.
Ils sont antisémites.
Voilà. Et un autre, alors, le propos d'un rabbin qui s'appelle Israël David Weiss, qui dit « Les vrais croyants dans le judaïsme déplorent les crimes commis par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens. » Ils disent « Moi, j'ai une foi juive, comme d'autres une foi chrétienne, d'autres une foi musulmane, mais ça ne m'a jamais dit que ceux qui n'avaient pas la même foi que moi, je devais les passer par les armes. Hein. » Bon, et donc, je prends position contre le gouvernement de Netanyahou et je prends position contre les sionistes. Et là, j'arrive à une notion très très importante qu'il faut qu'on ait bien en tête. Le sionisme, ce n'est pas l'expression des juifs, c'est l'expression d'un fascisme juif. C'est très très important de le savoir. C'est-à-dire, c'est un habillage qui fait croire que c'est cette religion qui fait qu'on veut éliminer toutes les autres religions ou tous les autres croyants de toutes les religions. C'est faux. C'est-à-dire, c'est typiquement une position fasciste. Le sionisme est un fascisme. Par contre, toute personne qui croit à la Torah et qui est un croyant israélite, judaïque, sincère, a le droit de vivre et n'est pas là pour tuer les voisins.
Être humain est égal à un autre humain.
Tout à fait. Voilà. Et c'est d'autant plus important de le souligner que dans ces pays, la Palestine entre autres, c'était vrai pratiquement dans tous les pays du Maghreb et dans beaucoup de pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient, les juifs de confession juive et les musulmans de confession juive n'ont pas passé leur temps à s'exterminer. Ça ne s'est jamais vu. L'extermination, alors c'est ça qu'il faut bien voir, l'extermination, elle n'a eu lieu qu'en Europe. C'est en Europe qu'on a exterminé des juifs parce qu'ils étaient juifs. Alors, n'allez pas porter sur le musulman du coin ou sur l'alaoui du coin.
Au contraire, on les a reçus.
Bien sûr.
Que ce soit en Afrique du Nord, ou au Moyen-Orient, ou en Turquie.
Voilà, alors n'allez pas leur faire porter des responsabilités qu'ils n'ont pas. Ce sont les nazis, ce sont d'abord l'aristocratie tsariste, les aristocraties polonaises, tchèques, etc., qui ont décidé que les juifs, d'abord, étaient interdits de cultiver la terre, ne pouvaient pas s'installer dans les villes, étaient interdits de tel et tel emploi, et qui ont fait le lit. Alors les pogroms, ça existait avant le nazisme, mais c'était la préparation au nazisme. On dit, vous êtes juif et donc de ce fait, vous devez mourir parce que vous avez cette qualité de juif. Ça, c'est une invention européenne. Les habitants du Moyen-Orient et du Proche-Orient, de la Palestine, n'y sont pour rien. Et donc, c'est pas à eux de payer ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, on le savait, je le répète, on l'a déjà dit, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la situation actuelle, sur le territoire de l'État d'Israël, il y a de plus en plus de gens qui sont monsieur tout le monde, aussi des intellectuels et tout, des journalistes qui disent « mais il faut arrêter ça ». Il faut arrêter ça parce qu'on va engendrer de l'antisémitisme. Et ils disent l'antisémitisme, c'est engendré par le sionisme.
Enfin, l'occupant, c'est qui?
Voilà. Et puis,
c'est d'Israël, l'occupant, c'est pas le Hamas.
Exactement.
Le Hamas, on a l'impression qu'il descend d'une galaxie. C'est des inconnus. Et bon, c'est pas long.
Alors, c'est bien parce que les clarifications sont en train d'avoir lieu. Alors, c'est très, très douloureux de dire qu'il faut le temps pour que ces évolutions des mentalités se produisent.
Ça commence.
Alors, il faut le temps et en même temps, à tous les quarts d'heure, il y a des bombardements et il y a des gens et des enfants qui meurent à Gaza.
Il y a 3500 enfants morts, 2500 femmes.
Voilà. Et en même temps, c'est inarrêtable dans l'état actuel.
Il y a 21 000 blessés.
Voilà. Alors, on se contente, alors c'est facile, c'est confortable, derrière un micro, de dire effectivement l'opinion évolue, ça ne va pas être si facile, et pendant ce temps-là, à longueur d'heure, à longueur de journée, il y a des gens, des innocents qui meurent. C'est vrai, mais comment faire, si ce n'est que le rythme de l'histoire, il est comme ça, l'histoire, elle est cruelle. Et je voulais m'arrêter maintenant un peu sur la position de la France. Pour vous lire le texte de l'Union juive française pour le progrès, donc il y a des gens qui sont de confession juive, d'origine juive, de famille juive, qui existent en France, qui sont organisés dans une institution et qui prennent des positions. On les connaît et ils sont tout à fait respectables. Et là, ils sont tout à fait bien placés pour dire ce qu'ils vont dire. Alors je vous lis une partie de leur dernier texte. La France, en abandonnant ses ressortissants présents à Gaza et en interdisant toute expression d'empathie et de soutien au peuple palestinien, se déconsidère et alimente l'antisémitisme en France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Expression d'empathie et de soutien, vous savez, les manifestations... Alors, à Marseille, les manifestations ne sont pas interdites pour l'instant. À Paris, vous savez qu'elles le sont. Et donc, à chaque fois, ça dégénère. Il suffit que la manifestation soit interdite. Avec le bon préfet de police, M. Nunez, qui fait ce qu'il faut pour mettre de l'huile sur le feu, ça marche à tous les coups. Bon, ici, alors, je suis content, on a eu des manifestations tranquilles, positives, à Marseille. Et il faudra qu'il y en ait d'autres le plus souvent possible.
C'est vrai. Ouais. Et qu'on soit au courant.
Voilà. Alors, et je poursuis. Nous, Français et Juifs, sommes effarés et catastrophés par l'ampleur sans précédent de ce massacre, commis avec l'accord des puissances occidentales et par ses conséquences prévisibles. Nous sommes effarés et catastrophés, mais pas surpris. L'actuel gouvernement français de droite fait ce que la droite fait. Il s'empare du sujet pour en faire un conflit de civilisation. Alors, ce n'est pas un conflit de civilisation, mais c'est un conflit contre la colonisation. Hein, vous m'avez pris ma terre, je veux récupérer ma terre. C'est tout. Ce n'est pas une question de civilisation, c'est mon droit. Je poursuis. Il instrumentalise le vécu des Juifs et Juives, et notamment leur rapport à la destruction des Juifs d'Europe, à des fins islamophones, et c'est parfaitement ignoble. Il soutient Israël inconditionnellement dans la ligne directe de son passé colonial. Et là aussi, c'est très, très important. C'est... Ouais. Parce que la France, les élites françaises, entre guillemets, sont porteuses de ce passé, de cette lecture coloniale, qui se retrouve parfaitement du côté israélien, puisqu'il s'agit de coloniser, de prendre la terre du paysan, du cru. Bon. Il favorise et entretient l'antisémitisme en censurant les manifestations de soutien à un peuple en danger, en ne reprenant sur les événements que le récit israélien et en définissant comme antisémite la critique du sionisme ou la campagne BDS, la campagne donc de boycott des produits, en particulier quand cette critique vient de supposer musulman ou non de l'extrême droite. Il s'agit d'une guerre contre un peuple désarmé, déplacé du nord vers le sud où, soi-disant, il serait en sécurité, alors qu'Israël bombarde de manière indiscriminée la totalité de la bande de Gaza. Oh, cela s'appelle un crime contre l'humanité. Ce sont des Juifs et des Juives qui le martèlent dans le monde entier, y compris en Israël. Comme l'ont souligné des centaines de manifestants juifs et leurs alliés qui ont rempli la Capitole à Washington, ainsi que la gare centrale de New York, à l'appel de Jewish Voice for Peace la semaine dernière pour protester contre la guerre de Gaza, « plus jamais ça » signifie « plus jamais ça pour personne ». L'UJFP le répète inlassablement depuis des années. Mais comme l'a rappelé Gideon Levy, c'est un intellectuel israélien, derrière tout cela se casse l'arrogance israélienne, l'idée que nous pouvons faire ce que nous voulons, que nous n'en paierons jamais le prix et ne serons jamais punis pour cela. Nous continuerons sans être dérangés. Et Israël, fort de ses soutiens occidentaux inconditionnels, risque de programmer l'extermination de la population gazaoui et de parquer sans doute dans le Sinaï, comme annoncé, ceux qui auront échappé au massacre pour rendre Gaza vide de Palestiniens. Autorise les colons de Cisjordanie, armés jusqu'aux dents par le gouvernement israélien, à tirer à bout portant sur des civils palestiniens, car encouragés et couverts par le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui ose affirmer que les Palestiniens seraient des animaux humains. Leur conclusion, elle est simple, et je la fais mienne. La communauté internationale doit se réveiller, exiger un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus et des négociations. Après cette guerre, personne ne pourra rentrer chez soi et se donner rendez-vous au prochain massacre.
Ouais.
On a effectivement un moment clé dans l'histoire de cette région du monde, mais il faut bien se rendre compte que, comme voulait l'évoquer à mot très très discret M. Guterres, ça fait 75 ans que ça dure.
Ouais.
Et il y a un moment où il faut arrêter ce genre d'activité. Que dire de plus ? Alors, quelques petites annonces pour la suite des événements. Vous aurez l'occasion d'écouter, alors c'est très très intéressant, mercredi prochain, vous savez que nous avons notre émission mensuelle, ouais. Et on a un invité. On a un invité qui s'appelle M. Michel Rimbaud, qui a été ambassadeur de France, en particulier dans beaucoup de pays arabes, en Arabie Saoudite, au Yémen, en Égypte, et il a été ambassadeur de France à Khartoum, au Soudan, pendant plusieurs années, qui a écrit un livre sur la Syrie, qui s'appelle « Syrie, guerre globale, fin de partie
ouais. ».
Bon, livre très très intéressant, donc c'est un recueil de témoignages sur ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, où vous savez qu'il se poursuit une guerre internationale extrêmement violente qui met la Syrie dans de grandes difficultés. Et donc Michel Rimbaud, moi je l'ai rencontré, je l'ai enregistré une émission assez longue d'une heure et demie avec lui à propos de ce livre et de ce qu'il sait de la Syrie et de cette région-là du monde qu'il a beaucoup pratiqué. Et je l'ai rencontré le mois dernier, donc au mois de septembre. Et il se trouve que le programme de nos émissions a fait que cette interview, vous l'entendrez mercredi prochain, donc mercredi prochain 8 novembre à 20h, on entendra. Et c'est très particulier de le réécouter à ce moment-là, parce qu'il faut savoir, et c'est le moment de s'en souvenir, que depuis 1947, depuis le premier jour où l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de créer deux États sur le territoire de la Palestine, un État israélien et un État palestinien, la Syrie, dès la première Assemblée générale où ce vote a lieu, a été contre. Et elle n'a jamais changé de position.
Jusqu'à présent.
Jamais changé de position. C'est-à-dire que c'est le seul pays arabe qui n'a jamais bougé de cette position-là en disant « la Palestine appartient aux Palestiniens » et en introduisant un nouvel État, avec toutes les aides qu'il a eues et tous les secours qu'on a eus et toute la politique sur laquelle je ne vais pas m'étendre plus que je n'ai fait.
C'est très long.
Voilà. C'était un facteur de désordre dans cette région-là du monde et ça a été voulu comme un facteur de désordre, un facteur de désordre dans le monde arabe.
Ouais.
C'est que la Syrie a tenu sans jamais bouger cette position-là depuis 1947. Et donc, je rends hommage à cette position de la Syrie, car elle a été la seule. D'autres ont passé des compromis, la Jordanie, l'Égypte, etc. D'autres étaient en train d'en passer, je pense à l'Arabie Saoudite, etc. La Syrie n'a jamais bougé.
Elle a été toujours contre le colonialisme dans le monde entier.
Voilà, tout à fait. Ça, c'est très important. Donc, ce sera l'occasion d'écouter Michel Rimbaud parler de cette Syrie-là. Et c'est un peu douloureux, puisque le titre du livre, c'est « Syrie, fin de partie avec un énorme point d'interrogation. Le point d'interrogation est toujours là, et il est d'autant plus important qu'effectivement, cette position de la Syrie est considérée comme très, très dangereuse par M. Netanyahou et son équipe et les gens qui le soutiennent, parce qu'en fait, c'est là qu'un des endroits où on refuse dans cette région-là du monde, la politique israélienne. Il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y a eux, la Syrie, depuis l'origine. Maintenant, il y a le Hezbollah au Liban.
Oui,
maintenant, il y a l'Iran, un peu plus loin, qui disent qu'ils n'acceptent pas cette politique israélienne. Mais la Syrie a été le noyau de cette résistance à l'opération israélienne. C'était toujours important de le rappeler. Et puis, encore une minute pour annoncer mardi prochain, donc ce sera une émission un peu particulière puisque je serai absent de Marseille. Donc vous entendrez une émission enregistrée à l'avance qui consiste pour la moitié d'entre elles, donc la première demi-heure disons, en un interview sur un de mes amis qui revient, qui a passé l'été, une partie de l'été au Xinjiang, donc vous savez chez les Ouïghours en Chine, et où il a découvert, et vous l'entendrez parce qu'il en parle en riant beaucoup, en disant mais le Xinjiang est d'un calme absolu, la révolte anti-chinoise elle est terminée depuis très longtemps, enfin depuis 2016.
De toute façon l'Amérique et puis ses amis, ils ont toujours menti,
voilà.
Jamais...
Et donc vous entendrez, donc c'est Aymeric Monville qui, avec qui j'ai passé une demi-heure là-dessus, et qui dit effectivement tout est très calme, et il s'agit en fait d'un pays très évolué, avec des traditions particulières. Alors ça ne fait pas partie, ce ne sont pas des Chinois ethniques, hein, les fameuses, l'ethnie des Han qui est l'ethnie majoritaire, mais on vit bien dans le pays ouïghour, les traditions ouïghours y sont respectées, c'est un islam un peu particulier qui s'y pratique, mais qui s'y pratique très très librement. Et la population a l'air très heureuse, elle est bien habillée, elle fait la fête, et on peut arriver, comme il le dit au début de son interview, l'avion avait du retard, on est arrivé à 2h du matin dans le grand supermarché de Kashgar, c'était la fête, tout le monde dansait, il y avait de la musique, etc. Donc c'est fini la crise des Ouïghours, c'est terminé. Donc ça, vous l'entendrez mardi prochain, donc à partir de 14h, dans cette interview que j'ai faite aussi.
L'Arabie saoudite doit se rendre en Amérique.
Oui.
Ouais. C'est le problème palestinien.
Oui, oui. Ah ben, effectivement. Alors l'Arabie saoudite, maintenant, elle a quand même pris de la distance.
Voilà,
elle se rend bien compte. Alors, dans les gouvernements arabes, d'une façon générale, on en dit quelques mots. C'est-à-dire que les gouvernements arabes peuvent être prudents, comme le gouvernement égyptien, comme le gouvernement jordanien et d'autres. Mais en fait, l'opinion publique est tellement puissante en faveur des Palestiniens. Et puis, cette opinion publique sait que ça fait des décennies que ça dure. Elle sait que c'est toujours dans le même sens. Elle sait que chaque fois qu'il y a un mort israélien, il y a 50 morts palestiniens, ouais, tout le temps. Et ça, on ne peut pas le lui cacher, parce qu'elle le sait, elle a appris à le savoir. Bon, donc puisqu'elle le sait, elle pousse. Et donc les gouvernements de tous ces pays-là, je parle Jordanie, Égypte et quelques autres, ne peuvent pas se permettre de dire à la population « mais non, il ne se passe rien de grave ». La population ne peut pas le croire, elle sait tout.
Voilà. De toute façon, avant le 7 octobre, il y a eu plus de 250 morts pendant l'année palestinienne.
Voilà.
Donc, le Hamas...
On finit là-dessus. Merci Sidi, merci de votre attention. Et on se retrouve, mardi prochain et mercredi prochain pour ces deux émissions particulières.
Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit, ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza assassinés par leurs missiles? Où sont Ahed et Zakaria et Muhammad et Ismaïl? Petit l'occupant et sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. Il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui.